Les grands titres de ce dimanche 11 décembre. En Turquie, deux explosions qui seraient des attaques terroristes ont fait au moins 13 morts à Istanbul. Le gouvernement australien nie que le pays est en récession. Et en France, l'état d'urgence est prolongé jusqu'en juillet. En Turquie, 13 personnes auraient été tuées et au moins 20 blessées dans des explosions à l'extérieur d'un stade de foot d'Istanbul. Le président Recep Tayyip Erdogan a dit qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. L'une des explosions a lieu à l'extérieur du stade et l'autre dans un parc tout près. Anne Handlauer a plus de détails.
Il était 22h30, heure locale, lorsque deux fortes déflagrations retentissent dans le centre d'Istanbul, près du Vodafone Arena, le stade de l'équipe de football de Beşiktaş, situé dans le quartier du même nom, à moins d'un kilomètre de la célèbre place Taksim. Le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a confirmé deux explosions, l'une devant le stade, l'autre dans un parc situé juste à côté. Pour la première, il pourrait s'agir d'un attentat à la voiture piégée visant un car de policiers. Pour la seconde, dans le parc, le ministre a évoqué la piste d'un attentat suicide. Les policiers visés étaient chargés de la sécurité aux abords de ce stade où un match venait d'opposer les joueurs de Beşiktaş à l'équipe de Bursa. La rencontre était terminée et les supporters avaient quitté le stade depuis moins d'une heure au moment des explosions. Le club de Bursa a affirmé qu'aucun de ses supporters n'avait été blessé. Cet attentat est la cinquième attaque d'ampleur qui frappe Istanbul depuis le début de l'année. Trois de ses précédentes attaques avaient été attribuées au groupe État islamique. La quatrième avait été revendiquée par les Faucons de la Liberté du Kurdistan, un groupe proche du PKK.
Anne Handlauer pour RFI. Le gouvernement australien va donner $1 million à l'Indonésie pour de l'aide humanitaire suite au tremblement de terre qui a frappé la province d'Aceh. Plus de 100 personnes ont été tuées et 750 blessées dans le séisme de magnitude 6,5. Plus de 43 000 personnes ont également été déplacées. La ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop, a dit que l'argent servira à fournir des abris, des soins de santé et de l'eau potable. Elle a aussi ajouté que le gouvernement offre un service d'assistance pour les Australiens inquiets pour leurs familles ou amis dans la région.
We have no reports of any Australian fatalities. However, if people are concerned about friends or family in Indonesia, I encourage them to make contact with them. And if they're unable to do so, to use our consular emergency line 1300 555 135.
La ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop. Le ministre des Finances, Matthias Cormann, rejette l'idée comme quoi l'Australie serait en récession. Les derniers chiffres montrent que l'économie australienne a rétréci dans le dernier trimestre, une première depuis mars 2011. Mais le ministre a dit qu'il ne s'attend pas à avoir de résultats négatifs pour le quatrième trimestre. Si c'était le cas, donc s'il y avait un résultat négatif, le pays serait techniquement en récession. Matthias Cormann a dit que le gouvernement de Malcolm Turnbull reviendrait éventuellement à un excédent budgétaire, mais il n'a pas voulu donner de date précise. Il a dit à Sky News que le gouvernement travaille à relancer l'économie.
Firstly, I reject your proposition that we are in a technical recession. Secondly, of course, the government at all times reviews all of the economic data, reviews all of the information in front of us, and makes decisions on the best way forward. In the context of the circumstance that Australia is in right now, one of the first things that we should be doing is legislate our more competitive business tax rate. And that is, of course, what we call on the Labour Party to do as soon as we get back from this break first thing next year.
Le ministre des Finances, Matthias Cormann. Le député travailliste Ed Husic croit que les Australiens se désintéressent des grands partis politiques parce qu'ils croient que le gouvernement n'a pas leurs intérêts à cœur. Il a dit qu'on peut voir cette tendance également partout dans le monde. Il a aussi dit à ABC qu'à moins qu'il y ait un gros changement, cette tendance devrait rester.
I think there is this definitely at this point, you know, people have looked at Brexit, you know, our federal election, rise of Trump, and tried to read a number of things in there. I think people are genuinely worried in the economic sense about where we're headed. They don't feel like they're winning. I mean, these are real challenges that I think we've got to respond to. And until we do, I think you will see minor parties come in and trade off that to get some support because they've got a slogan and not an answer.
Le député travailliste Ed Husic. De retour à l'international, aux États-Unis, la CIA aurait découvert que la Russie serait intervenue dans l'élection présidentielle pour aider à la victoire de Donald Trump et pour miner la confiance dans le système électoral. Même si pour les services de renseignement américains, il s'agit d'une évidence, le président élu Donald Trump n'accepte pas cette incrimination de Moscou avec qui il veut entretenir de meilleures relations. Le président Barack Obama vient de demander un rapport complet sur les piratages informatiques. Il doit lui être remis avant qu'il quitte la Maison-Blanche le 20 janvier. En France, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'en juillet pour faire face à la menace terroriste. On écoute le reportage d'Anissa El-Jabri.
Cinquième demande de prolongation parce que c'est efficace, dit le gouvernement. L'ex-ministre de l'Intérieur connaît d'ailleurs ces statistiques par cœur.
En un an, 4194 perquisitions, plus de 517 interpellations, 434 gardes à vue et la saisie de près de 600 armes, dont 77 armes de guerre. Depuis le début de l'année 2016, 17 attentats ont été déjoués, 420 individus en lien avec des réseaux terroristes ont été interpellés sur notre sol.
L'état d'urgence est prolongé jusqu'en juillet, période électorale oblige, Bernard Cazeneuve.
Notre pays a un rendez-vous démocratique important avec l'élection présidentielle et les élections législatives du printemps prochain. Cette période de campagne électorale peut aussi constituer malheureusement un contexte de risque d'attentats accrus pour ceux qui veulent frapper au cœur nos valeurs démocratiques. Deuxièmement, en plaçant la date d'échéance au-delà des élections, nous permettons au président de la République et au Parlement, qui seront issus des prochaines élections, d'avoir le temps nécessaire pour apprécier la situation avant de se prononcer sur une éventuelle prolongation supplémentaire.
Argument déjà rodé pour le débat parlementaire la semaine prochaine.
Anissa El-Jabri pour RFI. Une rencontre des pays qui s'opposent au régime du président Bachar al-Assad en Syrie, incluant la France, l'Angleterre, la Turquie et l'Arabie saoudite, a eu lieu à Paris. Au cours des deux dernières semaines, les forces du gouvernement syrien ont gagné du terrain à Alep. Le président Assad affirme que de prendre contrôle d'Alep résoudra le problème de la guerre dans son pays. Une affirmation que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, rejette complètement. Des pourparlers doivent avoir lieu aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie pour tenter de trouver une façon de stopper la guerre civile qui dure depuis 5 ans. Le secrétaire d'État américain John Kerry a demandé à Moscou et au président Assad de faire preuve de grâce durant les négociations.
We believe that rather than embolden the opposition, rather than encouraging its backers to keep fighting, attract more extremists, create another wave of refugees fleeing the country, Russia and Assad have a moment here where they are obviously in a dominant position. They have an ability to be able to show a little grace. And sometimes in diplomacy, a little grace goes a long way.
Le secrétaire d'État américain John Kerry. Au Bangladesh, des centaines de personnes de diverses organisations sont descendues dans la rue pour la Journée internationale des droits de l'homme. Ils ont souligné la situation difficile des musulmans Rohingyas au Myanmar. Les manifestants ont critiqué Aung San Suu Kyi et son gouvernement pour ne pas aider les Rohingyas et ont demandé à leur gouvernement de les accueillir comme réfugiés. Le secrétaire général du Bureau des droits de l'homme au Bangladesh, Mohammad Sahajan, a dit que des violations cruelles et brutales des droits humains ont lieu en toute impunité au Myanmar.
I humbly request to United Nations, I request to YC and all international organizations, it's not only the former Secretary General of UN, rather the present and existing Secretary General of United Nations, YC and many other organizations should come forward and visit, make a fact-finding teams for Myanmar and stand beside those people.
Le secrétaire général du Bureau des droits de l'homme au Bangladesh. En Gambie, une semaine après avoir reconnu sa défaite à la présidentielle qui l'opposait à Adama Barrow, le président Yahya Jammeh a annoncé qu'il ne reconnaissait plus les résultats de l'élection. Il veut la tenue d'un nouveau scrutin. Les précisions de Guillaume Thibault.
Je suis le président démocratiquement élu de la République de la Gambie. Face à la presse, Adama Barrow a été très clair. Il n'a laissé aucun espace à Yahya Jammeh. En boubou orange, le visage fermé, le président élu, il y a 8 jours, s'est exprimé depuis sa maison à Yundum, dans la grande banlieue de Banjul. Il a balayé les arguments de Yahya Jammeh, qui exigeait hier soir un nouveau vote. Yahya Jammeh n'a pas le pouvoir constitutionnel pour annuler les résultats, ni pour organiser un nouveau scrutin. Seule la commission électorale a le mandat constitutionnel pour le faire. En présence des autres leaders de la coalition qui a donc remporté le scrutin, Adama Barrow a ajouté « Nous appelons Yahya Jammeh à respecter le processus de transition et à léguer le pouvoir à la fin de son mandat en janvier. » Une posture ferme, soutenue d'ailleurs par l'ensemble de la communauté internationale. Dans un élan rassembleur, Adama Barrow a néanmoins appelé au calme et conclu son intervention en déclarant « J'appelle Yahya Jammeh à revoir sa position et à accepter le verdict du peuple. »
Guillaume Thibault pour RFI. Un mot de sport pour terminer le journal. La skieuse franco-australienne Tessa Worley a remporté l'épreuve de slalom géant de Sestrières devançant l'italienne Sofia Goggia. Avec cette victoire, Worley augmente son avance en tête de la discipline. On aura plus de sport dans quelques instants, juste après la météo. À Perth aujourd'hui, un maximum de 27, Adélaïde 30, Melbourne 21, Hobart 19, Canberra et Sydney 27 degrés, Wollongong et Newcastle 25, Brisbane 28, Cairns 32 et à Darwin 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 11 décembre. En Turquie, deux explosions qui seraient des attaques terroristes ont fait au moins 13 morts à Istanbul. Le gouvernement australien nie que le pays est en récession. Et en France, l'état d'urgence est prolongé jusqu'en juillet.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench